Bonjour, c'est Une Vie, Une Œuvre, et aujourd'hui, c'est le portrait d'Imre Kertész. Né le 9 novembre 1929 à Budapest et mort le 31 mars 2016 dans la même ville, Imre Kertész est un écrivain hongrois. En 1944, à l'âge de 15 ans, il est déporté à Auschwitz, puis transféré à Buchenwald. Libéré en 1945, il découvre à son retour que toute sa famille a été exterminée. Cette expérience marque toute son œuvre et il a déclaré écrire pour se construire une patrie littéraire, car on lui a un jour refusé le statut d'être humain. C'est la lecture de L'étranger de Camus qui met au jour sa vocation d'écrivain. Il sera tour à tour journaliste, auteur de comédies musicales et traducteur d'auteurs allemands dont Nietzsche, Freud, Roth ou Canetti, qui ont tous marqué sa création littéraire. Imre Kertész, premier écrivain hongrois à obtenir le prix Nobel de littérature en 2002 pour une œuvre qui dresse l'expérience fragile de l'individu contre l'arbitraire barbare de l'histoire.
Avant toute chose, je dois vous faire un aveu. Un aveu peut-être étrange mais sincère. Depuis que je suis monté dans l'avion pour venir ici, à Stockholm, recevoir le prix Nobel qui m'a été décerné cette année, je sens dans mon dos le regard scrutateur d'un observateur impassible. Et en cet instant solennel qui me place au centre de l'attention générale, je m'identifie plutôt à ce témoin imperturbable qu'à l'écrivain soudain révélé au monde entier. Et j'espère seulement que le discours que je vais prononcer pour cette occasion m'aidera à mettre fin à cette dualité, à réunir ces deux personnages qui vivent en moi.
Guillaume Métayer, vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de littérature du 19e et du 20e siècle, de littérature hongroise notamment. Avec quel qualificatif vous décririez l'œuvre de Kertész?
Je dirais que c'est une œuvre très originale, et très surprenante et personnelle, d'un être solitaire et autodidacte. Et qui s'est accroché à la survie à travers la littérature. Et voilà, moi je suis impressionné par cela chez Kertész, c'est que ce n'est pas un littérateur, ce n'est pas un homme de lettres, ce n'est pas un homme, à mon sens, je n'ai pas l'impression que ce soit un homme de réseau. Il a bien sûr écrit, et ça c'est Clara Royer l'a bien montré dans son livre, il a écrit des espèces d'opérettes, des œuvres de divertissement pour survivre, mais ça n'était pas quelqu'un qui était dans le monde littéraire. C'était vraiment un individu, un solitaire, comme je disais tout à l'heure. Ça pour moi c'est très impressionnant.
Imre Kertész, l'Holocauste comme culture. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Kadish pour l'enfant qui ne naîtra pas, Liquidation, Le refus, Journal de galère, Le drapeau anglais, Être son destin. C'est pour l'ensemble de son œuvre qu'Imre Kertész reçoit le prix Nobel en 2002. Clara Royer, vous êtes l'auteur d'une biographie d'Imre Kertész, la seule biographie qui existe de lui en français, que vous terminiez quand il est mort, le 31 mars 2016. Quand et dans quel milieu est né Imre Kertész?
Alors, Imre Kertész est né en novembre 1929 dans une famille de la petite bourgeoisie juive de Budapest. Il en parle beaucoup dans son dialogue autobiographique, dossier K. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. D'une part, cette idée très forte dans toute son œuvre à venir et dans sa pensée, selon laquelle Auschwitz, en fait, n'arrive pas par hasard, n'est pas une parenthèse, puisque Kertész a vécu dans sa propre expérience l'antithèse de ce qu'on pourrait appeler un âge d'or duquel il serait brutalement tombé en étant déporté. Et d'autre part, une conscience de la discrimination qui l'entoure, lui, en tant qu'enfant juif, puisque dans les années 40, lorsqu'il va à l'école, il est placé dans une classe séparée, la classe B, qui était réservée aux élèves juifs, et que, par ailleurs, il avait grandi avec une pression parentale extrêmement forte sur ses résultats scolaires. Du coup, il était un élève médiocre. C'est souvent comme ça que ça se passe. Cette pression parentale s'explique par le fait que seuls 6% d'étudiants juifs étaient admis chaque année à l'université en Hongrie. à la suite d'une loi antisémite d'État qui avait été adoptée en 1920. Donc les parents de Kertész étaient extrêmement anxieux de la réussite scolaire de leur enfant, puisque s'ils ne pouvaient pas faire partie des 6%, eh bien, cela signifiait deux choses, soit pas d'études, soit l'émigration.
Je n'ai jamais pensé au fait que j'étais juif, sauf quand j'étais en danger. Et encore, ma judéité ne se manifestait pas dans ces cas-là comme quelque chose d'intérieur, mais toujours comme une négativité, une limitation, une détermination extérieure. De même qu'on se définit comme nourriture vivante face à un requin dans l'océan ou à un tigre dans la jungle. Mais on ne peut pas se contenter d'être la nourriture des autres. Je n'ai jamais pensé à la religion, je ne la comprends tout simplement pas, qu'il s'agisse par exemple de la religion juive ou du bouddhisme, de la religion des adorateurs du feu, des serviteurs de Kali ou encore de celle des Mormons. Pourtant, ma judéité m'a permis de vivre l'expérience universelle d'une existence humaine assujettie au totalitarisme.
Journal de galère.
Pour l'instant, moi-même, je ne comprends pas assez clairement l'aporie que je sens entre cette distinction et mon œuvre, ou plutôt ma vie. J'ai peut-être vécu trop longtemps dans des dictatures, dans un environnement intellectuel hostile et désespérément étranger, pour pouvoir prendre conscience de mon éventuelle valeur littéraire. La question ne valait tout simplement pas la peine d'être posée. De surcroît, on me faisait comprendre de toutes parts que le sujet qui occupait mes pensées, qui m'habitait, était dépassé et inintéressant. Voilà pourquoi j'ai toujours considéré l'écriture comme une affaire strictement privée, ce qui rejoignait d'ailleurs mes plus intimes convictions.
Clara Royer, comment se passe l'arrestation de Kertész qui donc précède l'envoi à Auschwitz?
La Hongrie a été, est occupée depuis le 15 mars 1944 par la Wehrmacht et il est sommé de travailler comme les enfants de son âge, lui-même à 14 ans. Et donc il travaille sur l'île Csepel dans une station de raffinerie. Sur le chemin du travail, un jour de l'été 44, il se fait arrêter avec d'autres camarades, sortir du bus et la suite, il la raconte vraiment très bien dans Être sans destin.
Et il ne sait pas ce qui l'attend. On est peu de temps avant la fin de la guerre, mais il ne sait pas ce qui se passe dans les camps.
Non, il ne sait pas ce qui se passe dans les camps, mais c'est un phénomène qui a été beaucoup commenté, notamment par notre Simone Veil, qui a beaucoup témoigné dans ses écrits de la stupéfaction et de la naïveté de ces juifs hongrois pour lesquels on a construit la rampe à Auschwitz-Birkenau. Il était prévu de déporter les juifs de Hongrie. Et donc, sur ces plus de 400 000 juifs qui sont arrivés à Auschwitz majoritairement en 8 semaines... c'est-à-dire entre les déportations ont commencé le 15 mai et elles ont été arrêtées autour du 8 ou du 9 juillet 1944, la majorité des déportés ne savaient pas ce qui les attendait. Ils s'attendaient éventuellement à être placés dans un camp de travail.
J'ai tout de suite éprouvé un sentiment de confiance pour le médecin, car son visage avait une très belle apparence, sympathique, un peu allongé, rasé, avec des lèvres plutôt fines, des yeux bleus ou gris, en tout cas clairs, au regard bienveillant. J'eus tout loisir de l'observer pendant qu'il appuyait ses deux mains gantées de chaque côté de mon visage et tirait légèrement vers le bas des deux côtés la peau sous mes yeux, de ce geste de médecin que je connaissais déjà. Au même moment, d'une voix basse et néanmoins claire, trahissant un homme cultivé, il me demanda « Wie alt bist du ?» mais en quelque sorte tout à fait incidemment. Je lui ai dit « Sechzehn ». Il hocha légèrement la tête, mais plutôt parce que c'était la bonne réponse et non parce que c'était la vérité. C'est du moins le sentiment qui m'avait soudain effleuré. Je remarquais également, mais c'était plutôt une impression passagère et peut-être erronée, qu'il semblait satisfait. Il avait l'air presque soulagé, en quelque sorte. Je sentais que je lui plaisais bien. Ensuite, une main encore posée sur mon visage et montrant de l'autre le côté opposé de la route, il m'a envoyé parmi les aptes. Les gars m'ont fait un triomphe, ils riaient de joie. Et à la vue de ces visages rayonnants, j'ai compris la différence qui séparait en fait notre groupe de ceux d'en face. La réussite, si je ne m'abusais. Je renfilais alors ma chemise, échangeais quelques mots avec les copains et j'attendis de nouveau. De là où j'étais, je voyais d'un autre œil ce qui se passait de l'autre côté de la route. Un flot humain s'écoulait sans cesse, se resserrait dans un goulot d'étranglement, accélérait, puis se ramifiait en deux devant le médecin. Les garçons arrivaient l'un après l'autre et je participais dorénavant moi aussi à l'accueil, naturellement. Un peu plus loin, j'aperçus une deuxième colonne, les femmes.
Être sans destin.
La linéarité exige que chaque situation s'accomplisse intégralement. Elle m'a interdit, par exemple, de sauter élégamment une vingtaine de minutes pour la seule raison que ces 20 minutes baient devant moi, tel un gouffre noir, inconnu et effrayant comme une fosse commune. Je parle de ces 20 minutes qui se sont écoulées sur le quai du camp d'extermination de Birkenau, avant que les personnes descendues des wagons ne se retrouvent devant l'officier qui faisait la sélection. Moi-même, j'avais un souvenir approximatif de ces 20 minutes. Mais le roman m'interdisait de me fier à mes réminiscences.
Il lutte sur deux fronts.
Laurence Kahn, psychanalyste.
Le premier front, c'est toute la dimension de la culture pathétique qu'il faut mettre entre guillemets, bien évidemment. C'est-à-dire tous ces mots qui tentent de célébrer la détresse du survivant, la persécution du survivant, le malheur du survivant, les souffrances du survivant, et dont il dit que finalement, ceci a définitivement enquisté l'extermination dans une culture de la mémoire qui est dicté par une volonté, au fond, de ne pas se souvenir. C'est-à-dire de ne pas faire pleinement sa place à cet événement crucial dans le destin de l'Europe. J'emploie le terme de destin, il faudra sans doute mettre quelques bémols ensuite. L'autre front contre lequel il lutte, c'est la consensualité. Antelme me dit la même chose. Voilà, c'est passé et nous nous sommes tous retrouvés. Et alors là, la lutte contre cette consensualité, dont il dit que ce « nous » consensuel a été édifié sur les ruines du « nous » mystique, du nazisme, il voit dans cette consensualité, alors très précisément, l'absence de destin, c'est-à-dire une pseudo-culture, dans le sens où c'est une culture où l'homme est devenu superflu. Sur ces deux fronts, au fond, il a, à chaque fois, il se situe à la fois comme écrivain et puis à travers ses journaux, ce qui n'est pas tout à fait pareil que les romans, au fond, il se situe avec beaucoup de précision, si on y regarde de près, puisque il refuse de considérer que son écriture est l'écriture d'un survivant. Il refuse d'être, au fond, traité comme un témoin. Sa position est infiniment plus complexe, de même que, dit-il, Auschwitz, ça n'est pas le nom d'Auschwitz, ça n'est pas le camp d'Auschwitz. Auschwitz, c'est le nom qu'il donne à quelque chose qui précisément est une cassure complète dans l'horizon même de l'universel.
Guillaume Métayer, qu'est-ce qui, chez Nietzsche, pouvait en plaire à Kertész ?
Alors ça, c'est une question importante, à mon avis, puisque moi, il se trouve que je viens des études nietzschéennes. Enfin, j'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours beaucoup sur Nietzsche. J'ai été très frappé par le fait que Kertész est nourri de Nietzsche. Il l'a traduit lui-même, il a traduit La naissance de la tragédie. Et parfois, j'ai presque l'impression même que certaines de ses œuvres sont un peu presque démarquées de l'œuvre de Nietzsche par leur style, notamment les journaux. C'est une sorte pour moi de mélange entre le journal de Kafka et les aphorismes de Nietzsche. Et dans les journaux, on trouve des tics de langage nietzschéen. On trouve par exemple cette espèce d'obsession pour les points de suspension, les tirets, les italiques, les mots peut-être en langue étrangère, etc. Une espèce comme ça de côté nietzschéen. Et bien sûr, cette langue nietzschéenne, elle va de pair avec une vraie innutrition de la pensée nietzschéenne qui est fondamentale dans son travail, puisque Kertész donc, est un survivant d'Auschwitz et il s'est posé forcément la question d'Adorno, c'est-à-dire de savoir si on pouvait écrire un poème, des poèmes ou de la littérature après la Shoah, et après Auschwitz. Et il a répondu à cette question, à mon avis, en utilisant Nietzsche, c'est-à-dire en considérant que l'être humain, et d'ailleurs en général chez Nietzsche, il y a sans doute une ontologie esthétique, que l'être humain est toujours esthétique, c'est-à-dire que la fonction d'esthétisation, on pourrait dire, c'est du monde, est inhérente à la vie. On ne peut pas vivre sans créer. Donc on ne peut pas survivre sans écrire, d'une certaine façon. On ne peut pas survivre sans recréer ce qu'on a vécu, de même qu'on ne peut pas vivre dans l'instant sans recréer de manière artistique, fût-ce au niveau de l'individu. Et c'est ça là que, à mon avis, Kertész a compris et a pris chez Nietzsche, y compris dans les camps. Ce qui est évidemment très provocateur et très choquant, ce qui explique qu'à un moment dans Être sans destin, le narrateur est pris de nostalgie pour le camp. Parce qu'il avait créé, pour y survivre, il en avait créé une image esthétique et vitale. Et donc, quand il repasse par là, il se rappelle cette image. Alors il y a un jeu de la mémoire, bien sûr, l'embellissement de la mémoire. La mémoire elle-même est une fonction esthétique, ou esthétisante, on pourrait dire. Donc, moi, c'est ça qui m'a particulièrement intéressé. Alors, c'est un paradoxe aussi, parce que Nietzsche était le philosophe des nazis, à tort ou à raison, plutôt à tort, en fait, on le sait maintenant. Et donc, Kertész a dépassé cette image, qui était en plus une image colportée par la doxa communiste de l'époque. Kertész ne se laisse pas du tout emporter par cette vision communiste de Nietzsche, précisément aussi parce que il le met en parallèle sans les identifier totalement, les deux totalitarismes. Donc il va rechercher Nietzsche par-delà l'interprétation de son temps, hongroise de son temps, communiste de son temps, par-delà l'interprétation des nazis, pour en faire le héros de la survie esthétique. Et en même temps que c'est le héros de la survie esthétique, c'est tout simplement le indissociable de sa vocation d'écrivain.
Laure Barillas, vous êtes agrégée de philosophie. Vous venez de soutenir une thèse sur Jankélévitch. Vous êtes donc spécialiste de Jankélévitch et lectrice de Imre Kertész.
Oui.
Est-ce que c'est juste de dire, Laure Barillas, qu'il y a une dimension philosophique dans les textes de Kertész ?
Oui, c'est absolument évident. Moi, un de mes textes de prédilection, c'est Journal de galère, qui est un commentaire, un dialogue permanent avec la philosophie, avec Nietzsche, évidemment, dont il a traduit La naissance de la tragédie, mais aussi avec Camus, avec Kafka aussi. Je pense que le rapport à la philosophie tient à ce dialogue avec des philosophes qui ont été vraiment des influences extrêmement importantes. Mais il y a aussi, en fait, la question fondamentale que pose sa littérature. Une de ses questions les plus importantes, c'est comment vivre ? C'est quelle forme donner à une vie ? quand on est soi-même survivant, quand on a fait l'épreuve des camps de la mort. Et c'est même le rapport qu'il entretient en général avec l'éthique.
Laure Barrias, qu'est-ce qui, chez Nietzsche, au regard de ce que Cartès a écrit, pouvait tant plaire à Cartès ?
La relation entre Nietzsche et Cartès, moi, je la trouve fascinante, parce qu'en fait, c'est jamais, comme les vrais héritiers de Nietzsche, on n'est jamais dans un rapport purement de commentaire, mais véritablement de réinterprétation de ces concepts. C'est-à-dire que le sens du tragique, le sens de la joie aussi, qui a été très mal compris, on a reproché parfois à Cartès une espèce d'optimisme tragique qui a beaucoup choqué, quand il disait qu'effectivement, dans les camps, c'était pas toujours l'enfer. Ce genre de propos qui, effectivement, sorti du contexte et sorti d'une pensée qui est globalement très nietzschéenne, effectivement, on peut pas le comprendre, mais il y a ce rapport au tragique, à la tragédie dans l'existence, qui en fait toute la vérité de l'existence. Il y a le même rapport à la souffrance, à la douleur, qui doit pas être du tout supprimé, qui au contraire doit être pris au sérieux, qui fait partie des dimensions de l'existence en tant que telle et qui doit être affirmée. Il y a cette même dimension de la philosophie Nietzsche, c'est une philosophie affirmative, c'est une philosophie du oui, et même oui à ce qui est intolérable. Et donc je pense qu'il y a il y a ce même mouvement. Et puis évidemment, il y a ce refus absolu de la morale.
Clara Royer, lorsque le camp est libéré, les soldats américains proposent aux prisonniers, et notamment à Cartès, de ne pas retourner en Hongrie, en insistant sur le fait qu'il n'y a plus rien. Et il y retourne tout de même. Comment expliquer ça ?
Pour Cartès, qui a 15 ans à ce moment-là, l'idée de partir sans savoir ce qu'il est advenu de ses parents est inconcevable. Donc finalement, la question ne se pose pas. Il est évident pour lui qu'il faut rentrer et chercher ses parents. Donc il rentre à Budapest début juillet 1945, apprend immédiatement à son retour que son père ne reviendra pas du travail forcé. Sa belle-mère, elle, vit déjà avec quelqu'un d'autre. Il passe sa première nuit chez sa belle-mère. Et puis le lendemain, il retrouve sa mère à l'usine où elle était, où elle travaillait. Et donc, il va vivre avec sa mère, dont le deuxième mari a aussi été déporté, qui ne reviendra pas non plus. Et donc, pour Cartès, l'enjeu du retour, en réalité, il se pose sous la forme suivante. Comment réapprendre à vivre, ou pour être très concret, comment, lorsqu'on a été déporté pendant près d'un an, rentre-t-on à l'école ?
Cartès s'engage, adhère au Parti communiste, sans croire à l'idéologie que véhicule ce parti, mais pourquoi ? Pour appartenir à une communauté ou,
Cartès, lorsqu'il adhère au Parti communiste, d'abord, il a 16 ans. Il a dû attendre quelques mois d'avoir 16 ans, parce qu'on lui a refusé une première fois en disant qu'il était trop jeune. Il y va avec, peut-être pas une foi marxiste, mais le désir d'adhérer à un groupe, à une communauté dans laquelle on ne reconnaît pas la race comme un critère opératoire. Puisque dans la rhétorique de la lutte des classes, le racisme n'a rien à faire. Donc l'antisémitisme, encore moins. Donc pour Cartès, c'est une démarche assimilationniste, qui n'est pas du tout exceptionnelle en contexte hongrois. Ça, c'est une spécificité de la Hongrie au sein de ce qui va devenir le bloc soviétique d'Europe centrale. La majorité des Juifs ne quittent pas la Hongrie au lendemain de la guerre, ni pour Israël, ni pour l'Ouest. C'est seulement un tiers qui quitte le pays. Les deux tiers de la communauté survivante, principalement budapestoise, du coup principalement bien éduquée, lettrée, va rester, et une partie importante va aussi adhérer aux organes du Parti communiste. Après, il racontait en riant que lui et sa mère étaient très pauvres et que faire partie du Parti communiste, c'était une façon de récupérer un peu de pouvoir aussi. Voilà, c'était une façon de rêver d'un monde sans cette grande misère, en tout cas au début.
Au milieu de l'été, la journée commençait très tôt, juste après le lever du soleil. Je me suis alors rendu compte à quel point les matins sont froids à Auschwitz. Avec les gars, on se regroupait sur le côté de notre baraque qui donnait sur les barbelés, serrés les uns contre les autres. On se réchauffait les uns aux autres, face aux rayons obliques du soleil rougeoyant. Quelques heures plus tard, nous recherchions plutôt l'ombre. En tout cas, là aussi, le temps passait. Le maroquinier était avec nous. On entendait de temps en temps une plaisanterie. On avait trouvé, à défaut de clous à ferrer, des cailloux que Joli Cœur gagnait régulièrement. À part cela, deux fois par jour aux toilettes, le matin à la baraque des lavabos, un local semblable, sauf qu'à la place des estrades, il y avait sur toute la longueur trois rangées d'auges zinguées, avec au-dessus de chacune des tuyaux parallèles percés de nombreux petits trous à travers lesquels coulait un mince filet d'eau. La distribution de la nourriture, le soir, l'appel et aussi, bien sûr, les informations. Voilà de quoi je devais me contenter. C'était là le programme de toute une journée. À cela venaient encore s'ajouter des expériences. Ainsi, un bloc-spire, bouclage de blocs. Le second soir, j'ai vu alors pour la première fois notre chef de bloc s'impatienter, je dirais même s'énerver. Avec des voix lointaines, un toy-boy de bruit qui s'infiltrait et où, entendant bien l'oreille dans l'obscurité quelque peu étouffante de la baraque, on pouvait distinguer des cris, des aboiements et des coups de feu. Ou, de nouveau, le spectacle d'un convoi de l'autre côté des barbelés, de gens qui rentraient du travail, comme ils disaient. Et je devais le croire, car moi aussi il me semblait voir que sur les brancards que portaient là-bas ceux qui marchaient à l'arrière, il y avait effectivement, cela ne faisait aucun doute, des morts, comme on l'affirmait autour de moi. Tout cela faisait travailler mon imagination pendant un certain temps, naturellement. Néanmoins, je peux l'affirmer, cela ne suffisait pas à remplir toute une longue journée passée à ne rien faire. C'est ainsi que j'ai compris que, même à Auschwitz, on pouvait s'ennuyer, à condition d'être un privilégié. Nous attendions. À bien y réfléchir, nous attendions que rien ne se passe. Cet ennui, avec cette étrange attente, je crois que c'est cette impression-là, à peu près, oui, qui en réalité caractérise vraiment Auschwitz, à mes yeux en tout cas.
Être sans destin.
C'est l'homme fonctionnel, c'est-à-dire qu'au fond, et c'est ce qu'il décrit très bien avec son personnage de Kövesh, il est ballotté. Kövesh est ballotté parce qu'il n'a pas vraiment de volonté propre. Le système, bon, les conditions historiques font que les êtres humains deviennent des quantités interchangeables et considérées comme négligeables. Et donc, c'est pas du tout une théorie du méchant grand homme, que serait par exemple Hitler ou Staline, hein, bien sûr, ce n'est pas des enfants de cœur, mais c'est pas la question, c'est la question de ce qu'est devenu l'individu. Et donc, il y a un lien ici entre la pensée antitotalitaire, type Hannah Arendt, je dirais, et l'existentialisme, qui est très important pour Kertész, en particulier Camus, bien sûr, mais aussi Sartre. Même s'il y a probablement plutôt une explication avec et contre Sartre, et une proximité, une fraternité avec Camus, qui s'explique aussi par la différence de position entre Sartre et Camus face à la insurrection de 1956.
Pour Claude Lanzmann, par exemple, il y avait une spécificité d'Auschwitz, et pour beaucoup d'autres. Et c'est curieux parce que Kertész, on a le sentiment qu'il y a une spécificité d'Auschwitz, puisqu'il dit Auschwitz est devenu un nom... le système concentrationnaire, c'est Auschwitz, et pourtant il les superpose, ces deux systèmes.
Je crois me souvenir que Kertész ne les superpose pas tout à fait, je crois plutôt qu'il les apparie. Donc il les met en parallèle, il montre qu'ils ont des déterminations communes, mais il les distingue quand même. En même temps, pour les penser, il est utile, dans un premier temps, de les penser ensemble. Parce que ce sont quand même des phénomènes de la même époque, qui sont contemporains, qui ont, entre les deux, on peut quand même penser qu'il y a une action réciproque, hein, comme on dit dans la philosophie allemande depuis Kant, une Wechselwirkung, hein, quand même, l'un et l'autre quand même se nourrissent l'un de l'autre. Il y a quand même une sorte de collaboration, de mécanique de collaboration entre les deux, et une espèce de parenté. Voilà. Il y a plutôt une parenté. Ce qui m'amène à ajouter que Kertész se refuse aussi à faire de l'antisémitisme le point central de la question d'Auschwitz. Ce qui est quand même évidemment une conquête sur soi-même, hein, parce que c'est toujours ça que fait Kertész, des conquêtes sur lui-même. C'est comme ça qu'il fait avec Nietzsche, qui est à la fois un modèle de conquête sur soi-même et en même temps un moteur. Donc il y a une conquête sur soi-même qui consiste à dire « ce n'est pas le cœur du sujet ». Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un cœur du sujet, mais ça n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est l'homme fonctionnel. C'est l'abandon de la liberté, le fait que pour des raisons que Kertész s'explique pas d'ailleurs toujours, à mon avis, qui ne sont pas très faciles à expliquer probablement, les individus ont perdu, dans ce moment historique, la capacité à avoir ce qu'il appelle un destin. Il utilise le mot hongrois, hein, « sorce », qui veut dire, qui vient du latin « sorce », en fait. Hein, c'est très simple. Pour une fois, le hongrois nous est familier. Hein, c'est ce qu'il appelle la « sorstalanság », hein, l'absence, la non-destinité, hein, la destinité, on pourrait dire, avec un L apostrophe.
Laure Barrias, Kertész a fait d'Auschwitz une expérience universelle, c'est-à-dire qu'il vous voit une continuité entre Auschwitz et le système totalitaire dans lequel il vit dès qu'il sort du camp. Il sort du camp, il arrive dans une Hongrie qui est sous le joug de la Russie soviétique. C'est une question qui est très discutée, qui est polémique. Vous en pensez quoi ?
Il en a dit quelque chose de très beau, dans lequel il explique qu'en fait, vivre sous la dictature, en tant que survivant des camps, ça lui a d'une certaine façon épargné le suicide, en fait. Que beaucoup de survivants qui étaient en Europe de l'Ouest, justement, n'étaient pas confrontés à cette dictature, à ce rapport à un totalitarisme, et se sont perdus, n'ont pas pu se maintenir à l'existence. Et en fait, que ce rapport à la contrainte, à la structure, à ce qu'il appelle, oui, tout ce qui est de l'ordre du structurel, finalement, l'a maintenu vivant. Alors évidemment, c'est absolument en aucun cas une justification de la dictature et de ce que ça a fait à l'individu. Mais c'est quelque chose qui est très, très délicat, très, c'est aussi en ça, encore une fois, qu'il est très nietzschéen, c'est qu'il y a un goût du paradoxe aussi, il y a une volonté de ne pas être compris immédiatement, chez Nietzsche comme chez Kertész, un petit peu, cette idée que si on veut comprendre, il faut faire l'effort, il faut le mériter. On ne va pas faire que le texte soit le plus facile possible à lire. Il le dit lui-même, hein, que l'expérience de la lecture, elle doit être douloureuse, elle doit faire mal. Si on est dans un plaisir esthétique, c'est qu'un pur plaisir de jouissance esthétique, c'est absolument immonde, c'est qu'il y a quelque chose qui est raté, enfin, mais qui est raté dans le sens là, condamnable. Et je pense que ça, c'est vraiment très important chez lui. Donc, effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, ce rapport à la langue aussi, ce rapport à tout ce qui est de l'ordre des idées préconçues, tout ce qui est vraiment de l'ordre d'une langue qui serait complètement morte, sédimentée. Il fait exactement l'inverse. Et effectivement, quand on a ce rapport-là à la langue, bah, forcément, on peut être très mal compris parce que dans l'espace public, cette langue-là, en fait, elle passe mal parce que, on est habitué à avoir un rapport immédiat au langage qu'il faut pas interpréter. On comprend tout de suite ce que veulent dire les choses. Or, Kertész, c'est vraiment l'inverse. Il faut l'interpréter, il faut faire l'effort de comprendre ce qu'il entend par « être sans destin ».
Toute littérature idéologique est une paralittérature. La littérature antithéorique est aussi une littérature théorique, c'est-à-dire une littérature de justification, du moins parfois. Que justifie-t-elle ? Le renoncement à soi, l'abandon du devoir individuel, elle légitime la faillite. Le véritable non-conformisme, c'est arracher sa vie des mains du système, des systèmes. Faire de nous-mêmes la cause, la conséquence et le résultat final, sans rien taire du système, de la structure dont la menace mortelle pèse sur tout cela.
Journal de galère.
Après la défaite de la révolution de 1956, j'ai décidé, essentiellement pour des raisons linguistiques, de rester en Hongrie. Ainsi, j'ai pu observer, non plus en tant qu'enfant, mais avec ma tête d'adulte, le fonctionnement d'une dictature. J'ai vu comment un peuple est amené à nier ses idéaux. J'ai vu les débuts de l'adaptation, les gestes prudents. J'ai compris que l'espoir était un instrument du mal, et que l'impératif catégorique de Kant, l'éthique, n'était que les valets dociles de la subsistance. Peut-on imaginer liberté plus grande que celle dont jouit un écrivain dans une dictature relativement limitée, pour ainsi dire fatiguée, voire décadente? Dans les années 60, la dictature hongroise était arrivée à un point de consolidation qu'on peut appeler consensus social et auquel le monde occidental donnerait plus tard, avec condescendance, le petit nom de communisme de goulash. Après l'animosité du début, le communisme hongrois était devenu d'un coup le communisme préféré de l'Occident.
A magyar kommunizmus egyszerűen a nyugat kedvenc kommunizmusává változott volna.
Dans le bourbier de ce consensus, il ne restait qu'une alternative. Ou bien renoncer définitivement au combat, ou bien chercher les chemins tortueux de la liberté intérieure. Un écrivain n'a pas de grands besoins. Un crayon et du papier suffisent à l'exercice de son art. Le dégoût et la dépression avec lesquels je me réveillais chaque matin m'introduisaient vite dans le monde que je voulais décrire. Si j'évalue, en toute sincérité, ma situation à cette époque-là, je ne sais pas si en Occident, dans une société libre, j'aurais été capable d'écrire le même roman que celui qui est connu aujourd'hui sous le titre d'Être sans destin et qui a obtenu la plus haute distinction de l'Académie suédoise.
Guillaume Métayer, à quoi ressemble le champ littéraire hongrois des années 50 jusqu'à la fin des années 80, lorsque le mur tombe? Qui écrit? Est-ce que ce sont des auteurs qui servent à ravaler la façade du pouvoir? Est-ce qu'il y a des romans de déportation?
Vous savez que Tikertes a été très choqué par le refus de son manuscrit. Il n'y avait que deux maisons d'édition. Hein. Il faut imaginer un monde littéraire très contraint. Il a été très choqué et notamment, on lui a répondu que c'était un sujet dépassé parce qu'il a mis beaucoup de temps à écrire son livre sur la Shoah, sur Auschwitz. Et donc, au moment où le livre apparaît, personne ne comprend sa spécificité littéraire parce qu'au fond, les gens ont été habitués à quelques témoignages de sortie des camps, mais pas une revisitation, une remodélisation de cette expérience. Et ce n'est pas un témoignage, c'est autre chose, c'est un roman. Alors à l'époque, donc, il y a évidemment des écrivains officiels, il y a aussi des écrivains comme Lukács ou comme Tibor Déri, qui sont à la fois communistes et en même temps attaqués parce qu'on va toujours plus bas dans le réalisme socialiste, compris de la manière la plus obtuse possible. Donc des gens qui sont comme Déri, des communistes mais d'avant-garde, qui écrit La phrase inachevée, par exemple, un grand roman. On lui fait des procès en expliquant que son héros communiste est trop décadent parce qu'il est à un moment, il se laisse aller à tomber amoureux d'une bourgeoise ou quelque chose comme ça. Donc il y a des procès à répétition, il y a l'affaire Lukács, il y a l'affaire Déri. Et de plus en plus, il se crée une contre-culture et une culture underground. Et ça, c'est quelque chose qui se développe notamment avec les fameux samizdat, hein, donc des choses un peu comme la littérature clandestine dans les siècles classiques en France, où on se passait des manuscrits clandestins, libertins, libéraux. Hein, donc, avec un aspect d'avant-garde quand même. C'est très avancé ce qu'on peut trouver dans la littérature hongroise de l'époque, mais dans ses souterrains, bien entendu. Sinon, il y a évidemment tout un tas de productions plutôt plate et correspondant au canon du régime. Un autre point qu'il faut quand même mentionner, peut-être, c'est la traduction. C'est-à-dire que beaucoup d'écrivains, et Kertész en particulier, se transforment en traducteurs parce que c'est le boulot qu'on leur donne, finalement. On les laisse écrire, mais sous cette forme du traducteur, de celui qui se contente de, si on peut dire, même si ce n'est pas forcément le cas, de mettre dans la langue du pays des œuvres écrites ailleurs.
C'était un traducteur de Freud, hein, Kertész. Il connaissait très très bien, il a traduit Totem et Tabou en hongrois, il a traduit l'homme Moïse, il a traduit Moïse et Michel-Ange, enfin bon, c'est vraiment un très grand traducteur. Mais quand il dit il faudrait pouvoir refonder notre culture à partir de ce crime absolu, de la même manière que Freud a fondé la culture sur le parricide originel, c'est ça qu'il vise. C'est-à-dire réussir à atteindre une espèce de noyau extrêmement profond où les données seront complètement revisitées.
Tausche mich damit, dass ich habe etwas Neues.
J'aime à me dire que j'ai quelque chose de nouveau. Dans mon nouveau roman, ce qui était décisif, c'était la musicalité. J'ai appelé cette langue une langue atonale. Je dérive cette atonalité du fait que les valeurs traditionnelles se sont effondrées et une base de fond n'était plus possible. Et c'est pareil pour la littérature. Là aussi, il y avait ce ton de basse, de fond. Comment dire ? C'était peut-être le siècle des Lumières jusqu'à l'humanisme, le nouvel humanisme. C'était cela, les valeurs. Et ces valeurs-là, pensait-on, étaient encore valables au XXe siècle.
Mais
avec ce qui s'est passé durant l'Holocauste, on voyait que ces valeurs n'était plus valable. Écrire ce type de prose que je me permets d'appeler atonal signifie que
ganz labil ist.
La prose est instable et qu'elle n'a pas de basse, de fond non plus. Et l'on voit presque dans chaque phrase que face aux valeurs traditionnelles, on a une attitude soit ironique, soit critique, ou peut-être même n'a-t-on plus du tout de relation avec ces valeurs-là.
Laurence Kahn, avez-vous une préférence entre les journaux de Kertész et ces romans? Préférez-vous un genre à l'autre?
Absolument pas. Et il ne faut surtout pas me demander quels sont les textes que je préfère. Encore qu'il y en a deux dans les romans qui m'ont absolument, définitivement marqué. C'est Le Refus, parce que je trouve que là, l'arc qu'il parcourt autour de la mémoire, du souvenir écran, au fond de la lecture critique de l'Europe des Lumières à travers la parodie de Goethe, le petit hymne à la Hongrie, hein, qui se termine par « Petit à petit, on met du quai, j'allais être mûr pour être supprimé ». Bon, le refus est un texte absolument admirable. L'autre roman, c'est « Liquidation », qui est quand même un texte qui fait à peine 100 pages et qui lui a pris 13 ans à écrire, à élaborer, à reprendre. Et un des journaux, c'est le journal de l'écriture de « Liquidation » avec cette espèce de douleur, d'errance. Et « Liquidation », à mon sens, c'est vraiment une splendeur. Et puis, ces journaux sont formidables parce que dans les journaux, il va et il vient. Il y a une espèce de force dans les journaux, il y a une force du tâtonnement que je trouve absolument magnifique. Et puis une force de la citation. C'est-à-dire que dans les journaux, on voit ce qu'il lit. Par exemple, c'est un immense lecteur de Thomas Mann. J'ai envie de dire, rien que pour ça, j'aime Kertész déjà. Mais pas que Thomas Mann, pas que cette littérature-là, il y a aussi toute sa relation, d'abord avec, ses, avec les Hongrois, et puis, par exemple, quand je dis « il va, il vient », il a des phrases extrêmement dures à l'égard de Semprún. La façon dont Semprún met en scène Ilse Koch, tous ces, les abat-jours, la, la peau des déportés en, en abat-jour, etc. Il se moque avec une fermeté de la mise en scène tragique, là où il dit « excusez-moi, il n'y a plus de tragédie. Malheureusement, on la cherchera en vain maintenant. » Mais en même temps, au moment de la mort de Semprún, il fait une déclaration dans Libération absolument magnifique, en disant qu'il l'a rencontré, que c'était un homme extrêmement doux, extrêmement fin, et qu'au fond, il n'appartenait pas au même monde du tout. Que Semprún appartenait au monde des résistants, qui avait pris les rênes des camps, qui avait vécu dans ces camps extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, il y a des séquences. Je crois que c'est dans Être sans destin, où il voit le numéro à deux chiffres sur le bras du médecin. Et il est médusé. Comment est-ce qu'on fait pour rester aussi longtemps dans le camp? Comment on se débrouille pour tenir le temps, puisque c'est toujours la question du temps. Et que si des gens comme Semprún n'avaient pas existé, ils n'auraient pas vécu, tout simplement. Donc une espèce de grand hommage complètement décalé, où il reconnaît, les, au fond, une autre sorte de qualité dans la position de Semprún, qu'il ne rabat pas sur le témoignage, hein, pas du tout, pas du tout.
Guillaume Métayer, est-ce que la voix de Kertész vous inspire des commentaires?
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé entre nous, surtout entre spécialistes de littérature hongroise, du style, de notamment d'Être sans destin, hein, qui est un style très, très particulier, un mélange dissonant, atonal justement, de voix, de tournure grammaticale, un peu pompeuse, mais employée par un adolescent qui ne les comprend pas tout à fait, etc. C'est quelque chose d'assez assez exceptionnel. Il y a un autre aspect de la voix de Kertész qui m'intéresse, c'est, je vais utiliser un terme un peu emphatique, qui est le terme d'épanorthose, c'est cette façon de se corriger soi-même, de passer son temps à se corriger soi-même. Alors ça, il l'utilise par exemple dans le Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, et il l'utilise aussi dans son récit de 1956, qui est aussi une autre expérience historique de Kertész, quand même, qui est cette insurrection des Hongrois pour la liberté, si on peut dire, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Et Kertész donc, montre comment il n'arrive pas vraiment à raconter son 56, son 23 octobre 1956, et tout en n'arrivant pas à le raconter, bien sûr, il arrive à le raconter, mais il se reprend sans cesse, et par là, il montre qu'on ne peut pas transmettre l'expérience historique, parce que c'est un vieux professeur, c'est pas lui, hein, c'est un narrateur, un vieux professeur, auquel ses élèves demandent de témoigner sur 56. Il n'y arrive pas, il se reprend sans cesse, et ça m'a beaucoup frappé, cette façon de ne pas y arriver, pour finalement raconter une anecdote assez plate, c'est-à-dire une voiture qui passe avec un drapeau anglais dessus, qui est, je pense, la voiture d'un diplomate qui retourne en Angleterre, en faisant un petit coucou de la main avec un gant, si j'ai bonne mémoire. Ça m'a beaucoup frappé parce que, d'une part, parce que c'est une anecdote qu'on trouve dans un autre roman, Hongrois de 56, de Karinthy Ferenc, hein, qui a écrit Automne à Budapest, bon, ça c'est pour l'anecdote, mais aussi parce que, ça m'a fait penser à un auteur français auquel on ne penserait pas naturellement en lisant Kertész, qui est Charles Péguy. Parce que Péguy pratique sans cesse l'épanorthose, justement. Il passe son temps à dire, et que lorsque je dis ça, je veux dire en fait ceci. Je ne veux pas dire charnel, je veux dire temporel, mais quand je dis temporel, etc., etc. Ça devient des espèces de litanies comme ça. Et il y a un petit peu de ça dans le drapeau anglais, donc de Kertész. Et je me suis demandé pourquoi... Pourquoi ce point commun entre ces deux auteurs? Et en fait, je crois qu'en réalité, le point commun existe. Et que d'une part, il est la question de savoir comment on transmet l'histoire. Et Péguy parle de ça dans Clio. Il explique qu'on ne peut pas transmettre l'affaire Dreyfus, de la même façon qu'Arthès ne peut pas transmettre 56. Mais en fait, il y a sans doute entre les deux une interaction inconnue qui est Thomas Bernhardt. qui écrit un peu comme ça, et qui, lui, connaît ses pays. Donc, en fait, ça m'a amusé de voir ça et d'entendre dans la voix de Kertész d'autres voix, mais un peu en filigrane, que probablement lui-même ignorait. Probablement lui-même ne savait pas qu'il faisait aussi un petit peu du Peggy, qui s'était posé la même question 50 ans avant.
À quelqu'un qui vous demanderait si Kertész peut être rapproché de Thomas Bernhard
Oui, je répondrais oui. Il y a d'une part cette écriture, justement, de l'autocorrection, de peut-être un côté logoréique, dans notamment le Kaddish, hein, bien entendu. Donc une espèce d'entraînement du discours qui est en même temps un enlisement constant, mais un enlisement qui progresse, mais qui progresse par masse. Et puis, d'un autre côté, il y a bien sûr la position par rapport à ce qui est resté... je dirais ce qui est resté nazi dans la société, entre guillemets. Et ça, on le sent dans les relations entre Kertész et la Hongrie, qui sont quand même des relations très, très complexes, de fidélité, quand même, donc d'un juif hongrois à la langue hongroise, d'un déporté, quand même, à la langue de hongroise, mais en même temps, une position critique constante, hein, qui explique des allers-retours, avec notamment en Allemagne, une Allemagne qui sait se dénazifier, pour le coup. Donc une position critique qui explique aussi des tensions des deux côtés, hein, des deux parts. Et en ce sens, je dirais que oui, c'est un frère d'armes, si on peut dire, de Thomas Bernhard, oui, certainement. Donc la voix de Kertész, c'est, je dirais pour conclure, c'est une voix européenne.
Responsabilité. Leur barrière, Kertész l'attribue non pas aux seuls Allemands, mais à la culture européenne. Et il avait, avec les Allemands, envers l'Allemagne et les Allemands, une toute autre position que le philosophe dont vous êtes spécialiste, Jankélévitch. Vous pouvez faire une comparaison ?
Ah oui, oui, absolument, puisque Kertész a décidé de vivre à Berlin, quand même, à la fin de sa vie, parce qu'en fait, la position de Jankélévitch, elle est très radicale. En fait, il a décidé, à partir de la Seconde Guerre mondiale, de ne plus entretenir de relations avec l'Allemagne, c'est-à-dire, mais aussi avec la culture allemande, c'est-à-dire avec les penseurs allemands, avec la musique allemande. C'était un très grand... mélomane, merci de chercher les mots, mélomane, et il a tout arrêté, en fait. Ça a été vraiment une rupture fondamentale, mais la grande différence entre Jankélévitch et Kertész, c'est que justement, Jankélévitch le dit à nombreuses reprises, on lui a épargné dans sa chair la souffrance que Kertész a vécue, c'est-à-dire que Jankélévitch n'a pas été déporté, et il concevait son rôle très différemment de celui d'un survivant qui aurait, effectivement, bon, même si la notion de témoignage est très compliquée avec Kertész, parce que témoignage, encore une fois, ce serait la parole d'une subjectivité qui, transformée dans un roman, devient un personnage, enfin, bon, on y reviendra peut-être après, mais pour Jankélévitch, vraiment, son rôle à lui, c'était de maintenir vivante en permanence cette mauvaise conscience. Cette mauvaise conscience que les Allemands ont... D'ailleurs, il dit jamais nazi, il dit toujours allemand, ce qui pose problème aussi, évidemment, hein. Mais que cette mauvaise conscience que les Allemands, selon lui, ont eu tendance à oublier et avec laquelle ils se sont tout à fait accommodés. Et lui, vraiment, sa conception de philosophe, c'était vraiment de considérer que c'était à lui de maintenir cette parole en permanence vivante, de maintenir cette exigence morale en permanence à l'horizon de son discours philosophique. La grande différence aussi, c'est que Jankélévitch, pour lui, c'est un moraliste, c'est un anti-Nietzschéen parfait. Et lui, il a écrit un traité des vertus, et puis pour lui, la morale est le problème premier de l'existence et de la philosophie. Donc évidemment, d'entrée de jeu, c'est des distinctions qui sont très importantes. Je pense que sur le fond, ils sont tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'expérience de l'extermination des Juifs d'Europe a transformé radicalement l'expérience de tout individu. C'est-à-dire que être vivant après ça, ça ne peut plus être la même chose. On ne peut plus envisager les choses de la même façon. Mais chacun l'ont interprété dans leur vie d'une façon très différente, conformément aussi à leur expérience de cet événement.
Vous pensez pensez, Laurence Kahn, que Kertész a été entendu, c'est-à-dire que la condition humaine a été repensée comme il le souhaitait, sans éclairage pathétique, à l'aune d'Auschwitz?
Vous savez, Kertész, il est très récent. Hein, il est mort il n'y a pas longtemps. Il a été traduit il n'y a pas longtemps non plus. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est en chemin. Dans un premier temps, il est assez clair que finalement, à cette... j'ai même pas envie de dire folie, à cette espèce d'aberration, au sens strict du terme, d'une industrialisation du meurtre, puisque finalement, c'est ça le problème. Et c'est celui-là qu'en fait, il traite. De ce point de vue-là, même s'il a eu des positions très très variées par rapport à Adorno, certaines très élogieuses et d'autres très critiques, au fond, sur ce point-là, il est exactement sur les mêmes positions qu'Adorno. C'est-à-dire, le problème, c'est une industrialisation du meurtre. Par rapport à cette aberration, passer les tout premiers... Je parle là du monde des psychanalystes. Hein, passer les tout premiers temps de l'après-guerre, où il y a un certain nombre d'analystes qui ont fait en sorte de réfléchir d'une part à l'antisémitisme et d'autre part aux conditions politiques de l'exécution de cet antisémitisme. Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a le sentiment et puis l'exécution des choses. Mais passé ce premier temps, où ces analyses se sont approchées de la notion de psychose de masse, etc., toute la réflexion sur le rapport à la réalité, au fond, il y a eu un très très grand silence, et on voit bien que du côté des analystes, la chose a été reprise à partir de l'empathie due aux survivants. Je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, et compte tenu du fait qu'on est en train de sortir un petit peu de l'empathie comme méthode de soins générale, et qu'on est en train de se rendre compte que la violence est absolument partout, que, somme toute, il serait peut-être grand temps d'ouvrir les yeux, alors peut-être que cette pensée-là va continuer à faire son chemin. Que tout ce que, par exemple, à l'heure actuelle, on considère comme des exactions ponctuelles, mais qui commencent à s'assembler. On commence à s'apercevoir que la question de la culpabilité, tiens, c'est bizarre. Où est-elle passée? Où est passée la culpabilité? Quand Kertész dit « l'homme de la consensualité est un homme superflu parce que c'est un homme défait de sa responsabilité », là, il touche absolument au centre de ce qui nous occupe grandement pour l'instant.
C'était Imre Kertész, L'Holocauste comme culture, Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Avec Guillaume Métayer, spécialiste de littérature hongroise, chercheur au CNRS. Clara Royer, biographe d'Imre Kertész, Laurence Kahn, psychanalyste, et Laure Barillas, docteur en philosophie. Merci à Martina Warendorf, l'éditrice d'Imre Kertész chez Actes Sud. Lecture, Thibaut de Montalembert. Extrait de Carnet Nomade, Imre Kertész, Colette Fellous. Recherche INA, Sophie Enoch. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Christine Bernard.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet et Juliette Testa. Et dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.